Le journal Mireille Boucassa.
Un sac de ciment devra être vendu à 10 dollars américains dans la ville de Kinshasa. Cette décision du ministre de l'économie nationale devra être mise en application dès la semaine prochaine. Joseph Kabila est à son 12e jour de visite au Kasaï occidental. Cet après-midi, le chef de l'État a rendu visite à plusieurs places publiques de Kananga. Les détails dans ce journal avec André Kambala. Journée sans justice ce jeudi à Bounia en province orientale. Les magistrats en grève protestent contre la libération par le gouverneur de province de 66 personnes condamnées par le tribunal de grande instance de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dès la semaine prochaine, le sac de ciment gris devra être vendu à 10 dollars américains dans la ville de Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie au cours de la séance de travail qu'il a eue ce jeudi matin avec les cimentiers dans son cabinet. Selon Sylvain Bifouila, Silou et Sinat devront désormais distribuer leurs produits directement aux détaillants de dépôt à dépôt sans passer par les grossistes. Le ministre de l'économie est au micro de Jeff Ngoy.
Le ciment sera vendu à partir de la semaine prochaine.
À quel prix?
Sinat, comme Silou, ils vendent le ciment ou quand ils produisent le prix Exidine, ne dépasse pas 7 dollars. Et quand vous prenez le transport de Lukala ou de Kimpese, ici à Kinshasa, 1,5 $, ça vous arrive pratiquement à 8,5. Et comme ils avaient toujours l'habitude de vendre aux grossistes, eh bien, ce grossiste devait ajouter aussi 1 $. Ça faisait 9,5. Et maintenant, le revendeur devait ajouter aussi 1 $. C'est-à-dire moins de 6 000 ou pratiquement 6 000 francs congolais. Le sac. Et maintenant que j'ai obligé à Sinat et Silou de vendre directement au dépositaire, le prix, ça ne dépassera pas 10,5 $. Et c'est en direct. J'ai suspendu, du moins jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, ce sont les petits détaillants-là qui vont être servis.
Le gouvernement provincial du Kasaï oriental s'inquiète du mauvais fonctionnement du secteur agricole dans la province. À l'issue d'une visite à Ngandajika, le ministre provincial a rencontré le directeur de l'Institut national pour les études de recherche en agriculture. Ce dernier a dressé un tableau sombre du fonctionnement de cette institution de recherche qui jadis était un pôle d'excellence de recherche dans plusieurs provinces du pays. Le point de la situation dans ce reportage de Billy Yvon Lutumba.
L'INERA, Institut National pour les Études et Recherches en Agriculture basé en Ngandajika, est le principal outil de la province qui vise l'amélioration des variétés agricoles. Depuis bientôt près de 10 ans, cet organe de recherche est buté à un manque de matériel tel que tracteurs, produits d'analyse, ainsi que le manque d'eau et d'énergie électrique. Conséquence, les activités de recherche et les projets en cours avancent à pas de tortue, comme nous le dit le directeur de l'INERA, M. Jean-Paul Mutombo.
Nous pensons que nous travaillons à un cinquième sur le plan d'équipement, de recherche, manque de tracteurs. La recherche est en milieu réel. Il faut aller passer par là. Il n'y a pas de véhicule. C'est pourquoi depuis tout le temps là, les travaux ne se font qu'autour de la station. Nous avons besoin de matériel aratoire. Le labo a besoin du courant. Et à part ça, nous avons les différents produits dont on a besoin pour les besoins d'analyse. Qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse des salaires, qu'il s'agisse des engagements. Tout ça demande un financement.
Toutefois, malgré ces difficultés, l'INERA dispose de 2 projets. L'un avec la coopération technique belge et l'autre avec la Banque africaine pour le développement. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, le financement de ces 2 projets est estimé à près de 6 millions d'euros. Il vise l'augmentation de la production des semences vivrières et la réhabilitation du secteur rural et agricole. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
La ville de Kindu est toujours dans le noir depuis une dizaine de jours. Cette situation entraîne des conséquences économiques très visibles. Certaines denrées périssables commencent déjà à se détériorer. Selon le chef de district de la SNEL, cette situation est due à une panne survenue au niveau de la centrale de Rutshuru-Kuru. Il ajoute néanmoins qu'une pièce de rechange est attendue en provenance des Kinshasa à la fin de cette semaine. Mamie Alili Chibangu nous dresse la situation.
Les commerçants et les habitants de Kindu se plaignent du manque du courant jadis fourni par la SNEL à partir de la centrale hydroélectrique de Rutshuru-Kuru de Kalima, car des produits périssables comme de pommes vertes, de choux-fleurs, de pommes de terre, de fromage ainsi que de saucissons commencent à se détériorer par manque du courant. Il y a même des crèmeries, des postes à soudure et certaines chaînes de radio qui ne fonctionnent plus. Les responsables de certaines alimentations à Kindu précisent que la rupture coupure du courant pendant une dizaine de jours constitue un manque à gagner dans leurs activités. Contacté, le chef de district de la SNEL, M. Charles Kamalebo, s'est dit conscient des conséquences qui en découlent de l'absence du courant en Kindu. Toutefois, il précise que toutes les batteries sont en marche pour une solution rapide.
Nous avons connu une panne au niveau de la centrale de Turuku sur la tranche qui alimente Kindu. Nous avons demandé à notre hiérarchie qui est à Kinshasa de nous envoyer notre carte. À Kindu, nous n'avons qu'un seul vol qui opère par semaine le vendredi. Je voulais confirmer que la SNEL a mis tous les paquets pour que ce courant puisse revenir encore à Kindu.
Pendant ce temps, et la population ainsi que les commerçants continuent à prendre leur mal en patience. Mamia Lili Chibangu, Kindu, Radio Okapi.
Restons au Maniema où l'OMS vient de rendre disponible pour la première fois l'artésunate à Modiakine, un médicament antipaludéen dans cette zone de santé parmi les 18 de la province. Cette assistance fait suite aux chiffres très élevés du paludisme dans ces aires. Selon le médecin épidémiologiste provincial, plus de 10 000 cas, dont 300 décès, ont déjà été enregistrés en 2007. Le présent lot de médicaments qui est arrivé très tard ne couvrira que 3 mois de traitement. Le médecin épidémiologiste de l'OMS régional explique le pourquoi de ce délai. Luc Kishabongo est au micro de Tumba Mobile.
Bon, en fait, ce n'est pas vraiment un retard. Nous connaissons tous que le problème est crucial et il est général dans tous les pays. Mais pour ce qui est de la province, il y a eu des étapes préliminaires, il y a eu des activités avant cela, dont la formation des cadres des zones de santé qui devraient appliquer le nouveau protocole de traitement contre le paludisme. Ensuite, il y a eu la formation des laborantins, d'excès de laboratoire, et l'approvisionnement en réactifs des laboratoires pour l'hôpital de Kindu. Et c'est maintenant que nous sommes passés à l'étape de la distribution ou la remise des médicaments selon les nouveaux protocoles. Et cela sera d'abord donné aux 7 zones de santé qui ont suivi la formation et nous espérons étendre ça à d'autres zones de santé pour la prochaine fois.
Joseph Kabila poursuit son séjour au Kasaï occidental. Après la visite aux chutes de Katende, lieu prévu pour la construction future d'un barrage hydroélectrique, cet après-midi, le chef de l'État a rendu visite à plusieurs places publiques de Kananga. Il a commencé par la régie des eaux avant de se rendre à l'hôpital de référence où continuent d'être acheminés les rescapés de la catastrophe ferroviaire de Kakenge. André Kambala revient sur les points forts de cette visite.
C'était aux environs de 9h du matin que le chef de l'État avait quitté Kananga pour Katende. La route entre Katende et Kananga, longue de 50 km. Sur place, Joseph Kabila, pour la première fois, appréciait la beauté naturelle du site. Plus important, il a pris connaissance de la perspective de la construction d'un barrage hydroélectrique à ce site naturel. Joseph Kabila était accompagné des ministres du gouvernement et des députés nationaux ainsi que du gouverneur de province. Pas de doute que le choix de la visite de ce site de Katende soit un signal fort de Joseph Kabila aux populations de la province pour résoudre l'éternel problème d'électricité. Après Katende, le président est revenu sur Kananga cet après-midi. Il a visité ensuite l'usine d'épuration d'eau de la régie des eaux et s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kananga, là où nombreux rescapés de l'accident ferroviaire du 1er au 2 août dernier sont internés depuis hier. Il est allé s'enquérir de l'évolution de leur prise en charge. Notons que l'hélico de la MONUC a ramené encore 9 blessés parmi ses rescapés ce jeudi, ce qui porte à 21 le nombre de blessés nécessitant un traitement d'urgence. Joseph Kabila est au Kasaï occidental pour consoler les familles éprouvées de l'accident de Kakenge. Demain vendredi, il va assister à la messe de Requiem en mémoire de ses victimes de la catastrophe ferroviaire de Kakenge. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
En province orientale, à quelques 4 mois de la fin du mandat de l'Association de coopération et de recherche pour le développement dans le Bas-Ouélé, les habitants de Bouta se disent non satisfaits du travail réalisé par cette ONG internationale sur terrain. Pour eux, la plupart des projets déposés pour le financement sont rejetés alors que l'argent est disponible. Omer Badiabalé, député provincial du district du Bas-Ouélé en vacances parlementaires à Bouta, affirme avoir reçu mercredi dernier les plaintes de sa base. Selon lui, l'accord n'a pas d'impact socio-économique dans ce milieu. On l'écoute.
Nous sommes en train de faire des projections. Si on n'est pas cet environnement donné à un tel millier, il n'y a pas un impact socio-économique, il n'y a pas d'évolution. Mais c'est statu quo, au contraire, les gens pleurent. Ça peut interpeller la conscience d'un élu du peuple. Même si on parle de l'investissement, quelqu'un qui fait, parce que nous avons des documents de DSRP qui répondent aux aspirations de la population. Il y a des priorités, il y a des urgences à faire.
Quelles sont les priorités, quelles sont les urgences à Bouta, dans les Bas-Ouélé?
Les routes en premier lieu, la santé en deuxième lieu, l'éducation, l'énergie, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. non.
Est-ce qu'il y a des projets qui avaient été déposés dans ce sens auprès d'accord pour être financés?
Tout à fait. Ça n'a pas été accueilli. Pour des faits que moi j'ignore, ils ont été soumis à des contraintes injustifiées, à des projets injustifiés qui ne répondent pas à l'aspiration de la base.
Réagissant à ces propos, le responsable de l'ONG internationale Accor les a qualifiés de dénués de tout fondement. Jean-Marie Ilunga affirme que son ONG est bel et bien sur le terrain et qu'elle finance progressivement des projets sélectionnés conformément aux critères définis par sa hiérarchie. On l'écoute.
Non, c'est très faux. Nous sommes sur terrain, nous sommes en train de financer. Vous savez, même quand la Banque mondiale finance notre pays, on ne donne pas l'argent du coup. On les donne par tranche. Et justement, lorsque nous finançons les différentes communautés, nous finançons par tranche. Comme pour le moment, nous sommes au 75e projet. Si là, on va encore financer 40 projets. Rejeter, c'est trop dire. Parce que nous avons différents critères pour les projets. On peut prendre des projets à caractère social, de l'agriculture, l'élevage, ça va. Alors, il y a certains projets pour la destruction de la flore et faune, la scierie et consorts. Ça, on peut accepté. Mais les autres projets à caractère social, nous prenons, parce que nous sommes venus ici pour élever le niveau de vie de la population. Nous ne pouvons pas refuser les projets.
Notez que sur l'enveloppe globale de 1 250 000 dollars destinée au financement des micro-projets dans le Bas-Oélé, Accor dit n'avoir dépensé jusque-là que 284 000 dollars. Pour le commissaire de district du Bas-Oélé, l'appréciation de l'impact de cette ONG sur terrain dépend de chaque milieu bénéficiaire. Ce dossier est réalisé par Jacques Moukonkolé. À Bounia, les juges et magistrats observent depuis ce matin une journée sans justice. Ces juges et magistrats ne se sont pas présentés ce jeudi dans leur lieu de service. Ils indiquent que cette action est une façon pour eux de protester contre la libération en territoire d'Arou par le gouverneur de la province orientale de 66 personnes condamnées en juin dernier par le tribunal de grande instance des Litouri. Ces personnes étaient libérées sur ordre du gouverneur de la province orientale qui disait avoir appliqué une mesure de grâce du chef de l'État, Bounia Jean-Paul Basile.
Depuis ce jeudi matin, dans la salle d'audience du tribunal des grandes instances de Litouri, seule une dizaine des prévenus, accompagnés d'avocats, des gens dans leur auto, attendent les débuts des audiences. Le président du tribunal, seul juge présent dans son office, leur demande de patienter, soutenant que les juges finiront par arriver. Même décor au parquet des grandes instances de Litouri, où seul le procureur est présent dans son bureau, les bureaux de tous les magistrats restent fermés depuis le matin. Contacté, un magistrat qui requiert l'anonymat déclare qu'ils sont en grève. Ces derniers indiquent qu'ils déplorent le silence de leur hiérarchie à Kinshasa face à la libération ordonnée les mois derniers par les gouverneurs de la province orientale des 66 prisonniers condamnés en territoire d'Arou. Justice Plus, une ONG locale de défense des droits de l'homme, salue l'action des juges et magistrats de Bounia. Maître Christian Loukoucha, membre de Justice Plus.
Depuis que ces événements-là s'étaient produits à Arou, nous attendions voir une réaction de la part des autorités de ces pays. Pour Justice Plus, l'acte déposé par le gouverneur est une entorse qui entame gravement la crédibilité de la justice en Litouri. On ne peut pas comprendre qu'un gouverneur vienne faire libérer des détenus verbalement au cours d'un meeting.
Rappelons que le gouverneur de la province orientale, Médard Aoutsaïa-Senga, avait ordonné la libération les mois de juillet dernier des 66 personnes condamnées pour incendie volontaire et destruction méchante par les tribunaux des grandes instances de Litouri. Il disait appliquer une mesure de grâce du chef de l'État. Bounia Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Jeudi 9 août, le monde célèbre la 13e journée internationale des populations autochtones. Cette année, le thème retenu est « Honorer la jeunesse autochtone, les langues et les sites sacrés autochtones ». À Goma, à travers leur association Programme d'intégration pour le développement du peuple pygmé, PIDEP, la communauté Bambouti du Nord Kivu se dit victime de l'insécurité qui les condamne à vivre en dehors de leur milieu traditionnel. Ils ont fui depuis le mois de mai leur localité dans le territoire de Massissi à cause d'affrontements entre les éléments FRDC et des groupes armés. Ils se sont réfugiés donc à Chacha, environ 60 km au sud de Goma, où ils disent vivre sans aucune assistance. PIDEP réclame le retour de la paix et la sécurité en province du Nord Kivu. Joseph Itongwa, directeur provincial de PIDEP, est au micro de Bernardin Nyangui.
On ne sait pas donner un message autre que celui de la paix dans notre province. Maintenant, nous venons d'enregistrer depuis le mois de mai 2007 plus de 150 familles autochtones pygmées qui ont fui à Bufamandu. Et ces familles sont installées à Chacha dans des conditions très précaires. Nous avons d'ailleurs enregistré plus de 10 cas de malnutrition internés à Kiroche. Il y a 2 décès. Et face à cette situation, nous on fait aujourd'hui une interpellation, la communauté internationale, les autorités, et toutes les autres parties prenantes à militer en faveur de l'établissement de la paix dans toutes les zones où il y a l'insécurité.
Toujours à l'occasion de cette journée, aucune manifestation n'est organisée à l'Équateur où l'on retrouve pourtant une forte communauté de pygmées batois. Le président du Centre international de défense des droits des batois a saisi cette occasion pour dénoncer ce qu'il appelle l'indifférence de la part des autorités à l'égard de sa communauté. Pour le vice-gouverneur de l'Équateur, la demande d'audience du président du CIDDB ne lui est pas parvenue, mais il invite celui-ci à se mettre en contact avec le ministre provincial des Affaires sociales pour voir comment on peut célébrer dans les prochains jours cette journée dans cette province.